Les colloques du Collège de France.
Et donc pour la troisième et dernière conférence de cette session, c'est Grégory Chambon qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et qui va nous parler des textes des repas du roi de Marie comme source historique.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je remercie les organisateurs de ce colloque pour leur invitation dans le cadre de notre projet commun PCEHM. Et afin de rentrer directement dans le sujet de cet exposé, je vous présente un exemple de texte appartenant au corpus dit des repas du roi, comprenant près de 1300 documents. Et comme vous pouvez le constater, son formulaire est assez concis, minimaliste. C'est une liste de quantités de différentes denrées. La mention du terme clé Nitroi Goub Lougal, l'acadien Natam Charim, traduit par repas du roi, suivi d'un total et d'une date précise avec le mois, le jour et l'année. Aucun nom propre est mentionné. Alors, il y a de grands récapitulatifs mensuels et plurimensuels qui reprenaient chronologiquement le contenu des billets quotidiens de ce type. Et on peut aisément imaginer que ce type de texte, à l'instar de nombreux documents administratifs, ne suscite guère l'intérêt des assyriologues. En effet, quelle information l'historien peut-il raisonnablement espérer tirer, à première vue, de ce genre de document ? Alors, il y a quand même trois types d'informations qui ont été exploitées pour l'instant. Tout d'abord, ces textes fournissent des données quantitatives, bien sûr, sur les volumes de denrées destinés à la table royale, ainsi que sur le nombre approximatif de convives. Les textes des repas du roi nous renseignent également sur la diversité des mets servis et sur les produits nécessaires à leur préparation. Alors, ces informations ont déjà fait l'objet d'études approfondies dans le sillage des travaux de Jean Bottero sur les arts culinaires mésopotamiens. Et ce ne sera pas ici le sujet de mon propos. Enfin, ces textes peuvent fournir des indications sur la présence du roi à Marie, à la date mentionnée dans les documents, à supposer bien sûr que les repas royaux aient eu lieu en sa présence. Ces indications ont largement contribué à la renommée de cette documentation en raison de son intérêt, en fait, pour l'histoire événementielle. Grâce à la datation de ces documents, il a en effet été possible de reconstituer, en creux, une chronologie des déplacements royaux. Il faut aussi rendre grâce à cette documentation en rappelant que son exhumation, et je renvoie à la photo qu'avait déjà montré Dominique, ou du moins une partie de cette exhumation par André Parot en 1935 dans la salle 5 du Palais de Marie, a inauguré les grandes découvertes épigraphiques de Marie, qui se prolongèrent ensuite pendant plusieurs dizaines d'années. Il convient également de souligner que, dans le sillage des premiers éditeurs de ces textes, Jean Bottero, Maurice Birot, Madeleine Burke, plusieurs chercheurs ont su en percevoir toute la richesse, comme Jean-Marie Duron et Dominique Charpin. Je souhaiterais tout particulièrement rendre hommage au travail de Lucio Milano, qui a consacré en 1981 une étude pionnière à cette documentation, ainsi qu'à Jean-Pierre Materne, à qui revient la tâche difficile d'établir un premier manuscrit des transcriptions de l'ensemble des textes qui n'avaient pas été publiés dans les volumes AREM 29, 11 et 12. Mais je tiens à saluer ici tout particulièrement les travaux de Jack Sasson, présent parmi nous aujourd'hui. Alors, par son étude patiente et rigoureuse de centaines de textes relatifs au repas du roi, il a contribué de manière décisive à révéler tout le potentiel de cette documentation. Je commencerai donc mon propos ici par une citation de Jack, qui, dans un article de 1982, paru dans les Mélanges Krauss, s'est confronté aux multiples erreurs et apparentes inconsistances, discrepancies, dans les données chiffrées des repas du roi. If it could be that the enterprise of categorizing, recording, and transposing the information had a definite purpose and goal in mind, we might yet understand the many discrepancies, inaccuracies, and oddities which are found in our texts. Il touche ici une question essentielle qui constitue le principal moteur de l'étude de ce corpus, dont Jean-Marie Durand m'a confié l'analyse et que je remercie pour sa confiance, celle de la raison d'être de cette documentation. Les chercheurs se sont en effet déjà interrogés sur les modalités, bien sûr, de rédaction des textes, leur écriture, leur format ou encore leur mise en page. En revanche, la question de leur finalité a rarement été abordée. Pourquoi consigner par écrit la comptabilité des repas du roi ? Et également, pourquoi conserver durablement ces documents alors que leur fonction semble, à première vue, limitée à un usage immédiat ou à court terme ? Car ce qui caractérise ces textes, qui sont tous datés, excepté les récapitulatifs mensuels, c'est qu'ils étaient pour un grand nombre stockés dans des jarres et archivés, mais non systématiquement détruits ou recyclés, comme ce fut le cas d'autres documents administratifs périmés. Ainsi, certains textes enregistrant des mets datés de différents jours de la deuxième année de règne du roi Zimnirim, était-il toujours théoriquement consultable 11 ans plus tard? En fait, consultable est un bien grand mot. Selon André Parot, les tablettes de la salle 5 ont été retrouvées, je le cite, entassées, enfermées dans des jarres alignées et superposées contre la paroi sud. Certains pensent qu'ils seraient tombés de l'étage où elles étaient initialement stockées. On mesure toute la difficulté que les anciens administrateurs pouvaient avoir à rechercher un document particulier dans une jarre au col restreint, contrairement au cas d'un panier ou d'un coffre. Alors si on se réfère à la classification de Dominique Charpin, on n'a donc pas affaire à première vue à de véritables archives vivantes, bien que ce ne soient pas non plus des archives complètement mortes. Il s'agit d'archives endormies. Alors certains collègues parlent de zombies, hein, ce qui fait un peu plus hollywoodien. Et la première question examinée est d'ailleurs la suivante. Qu'est-ce qui, dans ce texte, fait archive? Qu'appelle-t-on donc texte du repas du roi? Le critère traditionnel pour identifier cette catégorie de documents est la liste plus ou moins variable des types de mets et denrées, mais surtout l'emploi de l'expression « ni trois goubes lougal », parfois développée sous la forme « ni trois goubes lougal » ou « tsabim », c'est-à-dire « repas du roi » et « de la troupe », c'est-à-dire de ses convives. Toujours noté au moyen de sumérogrammes dans les textes administratifs, cette expression semble constituer à Marie une formule figée qui est à l'origine de la catégorie historiographique des repas du roi. On la retrouve aussi telle qu'elle dans la correspondance, alors même que les lettres emploient habituellement le terme acadien « naptanum » pour désigner les repas autres que ceux du roi. L'expression « nitroa goublougal » n'est précédée ici d'aucune préposition. Il existe néanmoins des textes administratifs qui précisent qu'une denrée est apportée pour le repas du roi avec la formule « ana nitroa goublougal ». Ces documents diffèrent de celui que nous avons vu en introduction, car ils enregistrent uniquement un type de produit non encore transformé ou cuisiné, du miel, de la viande, du poisson, de l'huile ou de l'orge perlé, et mentionnent les responsables administratifs impliqués dans la transaction. Doit-on alors intégrer ces textes dans le corpus des repas du roi? Le critère du même lieu de découverte ne fonctionne pas, en tout cas, car plusieurs de ces textes ont été trouvés dans d'autres salles de la salle 5, en particulier les salles 108 et 110, au nord de la cour 106 du palais. On pourrait imputer cet embroglio aux Babyloniens, qui ont déplacé des lots de documents lors du pillage du palais. Mais il reste alors difficile de comprendre pourquoi, comme l'a relevé Jack Sasson, des textes du repas du roi datés par exemple du mois 7 de la 7e année du règne de Zimrim ont été retrouvés dans trois salles différentes. On observe en revanche que les récapitulatifs mensuels et plurimensuels semblent pour leur part provenir exclusivement de la salle 5, près des cuisines du palais, et nous reviendrons sur ce point plus tard. Il faut aussi signaler l'expression « la table du roi » (Gish Banchur Lugal) qui a été considérée par certains spécialistes de Marie comme équivalente à « repas du roi ». Or, les textes portant cette expression enregistrent des ovins morts ou devant être sacrifiés, livrés à la table du roi. Parmi d'autres, dépenses d'animaux pour des sacrifices ou des individus et ont été trouvés en dehors de la salle 5. Par exemple, un lot important a été trouvé dans la salle 160, dans la partie est du palais. Ces textes administratifs ne mentionnent jamais ni trois goubes lougal et relèvent clairement d'une autre comptabilité qui est celle de la viande et que Lionel Marty étudie. Cette notion de comptabilité me semble ainsi constituer une clé essentielle pour mieux caractériser les textes des repas du roi et saisir leurs fonctions. Les collègues anglophones l'expriment plus précisément par les deux termes « bookkeeping » et « accounting ». Le premier se concentre par définition sur le livre de comptes, sur la façon dont les comptes sont exprimés et enregistrés, ainsi que sur la constitution des archives associées. Le terme « accounting », qui invoque la dimension calculatoire et organisationnelle dans la gestion de biens et de denrées, revêt une signification plus large, de nature systémique et abstraite. Avec cette double notion en tête, on comprend la nécessité de mettre les textes en série pour voir comment ils fonctionnent ensemble, c'est-à-dire pour mettre en évidence le système accounting à partir d'indices, de caractéristiques partagées entre les textes repérés dans le bookkeeping. Car un texte du repas du roi est pris dans un système comptable qui a ses propres méthodes et ses propres visées. Et ceci constitue donc le sujet de ma deuxième partie. De manière générale, les pratiques comptables à Marie sont reconstituées à partir de deux types d'indices complémentaires. D'une part, le vocabulaire spécialisé attesté dans les petits billets administratifs, qui documentent les opérations quotidiennes de transfert des denrées. D'autre part, les relations qu'entretiennent ces documents avec les grands récapitulatifs mensuels ou plurimensuels, lesquels sont censés reprendre leur contenu. Concernant le vocabulaire administratif, il convient de garder à l'esprit que ces documents ont avant tout une fonction informative plutôt que descriptive. Ils ne consignent que des éléments que les scribes estimaient pertinents à mentionner. On constate que les billets quotidiens des repas du roi, si on décide de les identifier par le terme Mithras Goub-Lougal, ne comportent que deux termes administratifs. L'expression Mithras Goub-Lougal, pour repas du roi bien sûr, et l'expression Shunigin, qui renvoie au total des quantités de denrées enregistrées. On constate également que les noms d'individus sont totalement absents, alors que leur mention pourrait permettre d'identifier une opération administrative particulière en fonction de leur statut ou de leur activité, par exemple des marchands, des fonctionnaires ou des cuisiniers, etc. Autrement dit, les billets des repas du roi ne consignent ni un transfert de denrées, ni la responsabilité administrative d'individus. Ils fournissent plutôt un relevé des quantités disponibles ou mobilisées à un instant précis, quantité ensuite reprise dans un total synthétique, parfois même très sommaire, et avec ce qui a été décrit comme des erreurs de calcul. Il semble en effet qu'il ne faille pas considérer ce total comme une simple somme arithmétique des produits listés. Et si on prend l'exemple de ces deux textes qui sont écrits à 5 jours d'intervalle, hein, RM11-18 et RM11-20, et j'en profite pour remercier Vérène Chalandar, qui pour avoir rentré de nombreux textes des repas du roi dans Archibab, ce qui était très utile, il liste les mets et produits principaux livrés pour les repas du roi. Alors il y a plusieurs autres produits, il n'y en a qu'une partie ici, vous avez différentes formes de pain, je ne rentre pas dans les détails, des pains, les pains aigres, le fameux plat mersoum, une sorte de pizza d'après Jack Sasson, le plat chipkou, de l'huile de sésame, du gruau, de la farine, du miel, du sésame. Alors on constate que dans les deux documents, l'ensemble des quantités de pain est intégré au total. Dans ARM 1120, la quantité de chipkou, du plat chipkou, est reprise telle qu'elle, tandis que dans ARM 1118, le total attribué au chipkou correspond à l'addition des quantités de chipkou, de gruau papasoum et de farine saskoum. Ces deux derniers produits entrant dans la composition du plat. Autrement dit, le scribe a retenu dans le total la quantité du produit fini, c'est-à-dire du mets préparé. Les trois catégories de produits que les scribes jugeaient manifestement les plus importantes à faire figurer dans les totaux sont les différents types de pain, ou plus largement les mets désignés par le logogramme d'Inda. Vous savez que le logogramme d'Inda est très ambigu et peut désigner une sorte de pâte, de pizza justement, ou de pain. Le plat chipkoum et la boisson à la panoum. L'enseignement principal de ces pratiques comptables est que les totaux qui figurent après le terme shunigin ne doivent pas être considérés comme le résultat mécanique de l'addition des entrées précédentes. Ils relèvent plutôt d'une forme de comptabilité synthétique dans laquelle la quantité globale prime sur le détail des composantes, ce qui pourrait expliquer les apparentes nombreuses erreurs de calcul qu'on a trop tendance à imputer à l'incompétence des scribes. Ces totaux fournissaient une estimation du volume des principales denrées destinées à être servies à la table du roi. Et un tel système permettait sans doute d'évaluer, en fonction du nombre attendu de convives, la ration approximative revenant à chacun. Il permettait aussi, comme nous le verrons par la suite, d'évaluer la quantité d'orge nécessaire pour la confection des différents plats. Alors, comme je l'ai précisé, ces petits billets semblent être pris de façon chronologique dans de grands récapitulatifs mensuels ou plurimensuels. Alors, généralement, c'est un mois, deux mois, jusqu'à quatre mois, avec plusieurs colonnes. 44 exemplaires ont jusqu'à présent été identifiés, un nombre relativement faible au regard de ceux qui ont dû être produits au cours des 13 années du règne de Zimrilim. Alors, j'aimerais ici mettre en avant quatre caractéristiques principales de ces récapitulatifs. Premièrement, ces récapitulatifs ne sont jamais scellés et jamais datés à la fin par une date complète, mois, jour, année. Et ce sont les billets qu'ils reprennent qui permettent de les dater avec précision. Sauf un texte, une exception, daté de la 11e année du règne de Zimrilim. Ce ne sont donc pas, à l'instar des autres récapitulatifs de documentation administrative, par exemple pour la gestion de l'huile de sésame ou des céréales, des documents ayant une connotation juridique dans les processus administratifs. Leur contenu n'est validé par aucun responsable. Deuxièmement, les billets ne sont souvent pas repris tels quels dans les récapitulatifs. Comme vous pouvez le voir ici, en comparant ces deux billets, ce billet et ce récapitulatif, il peut y avoir une inversion des entrées et même une disparition de certaines entrées, comme la boisson à la panoum dans les entrées, ou les 10 syllas de chipkou dans le total sur le billet, qui n'apparaissent plus dans les récapitulatifs. Les données chiffrées, quantité et même date, sont aussi parfois légèrement modifiées. Alors, sans rentrer ici dans le détail au sujet de ces divergences, ces discrepancies que Jack Sasson a étudiées, Il est important de retenir que les scribes qui ont rédigé les récapitulatifs, qu'ils aient eu ou non l'ensemble des petits billets à disposition, ont opéré des choix dans la transposition des données. Troisièmement, à la fin de la liste des billets intégrés au récapitulatif et immédiatement avant les grands totaux, figurent généralement, quoique non systématiquement, selon les contraintes du calendrier cultuel, les denrées dépensées pour le repas kispoum des ancêtres et des rois défunts avec l'expression anakispoum, chat, lougal, mèche. On retrouve cette même expression sur de nombreux petits billets qui sont à tout égard comparables aux billets des repas du roi, à ceci près qu'ils ne portent pas la mention ni trois goubes lougal. Or, les quantités de denrées attribuées au kispoum sont néanmoins intégrées au grand total final des récapitulatifs sous la rubrique repas du roi, dépenses du mois X. Cette pratique montre que les petits billets enregistrant les dépenses destinées au kispoum des rois, que la recherche tend habituellement à exclure du corpus des repas du roi, en raison de l'absence de la mention explicite « repas du roi », étaient en réalité considérés par les scribes de Marie comme faisant pleinement partie de cette comptabilité. Ainsi, du point de vue administratif, les dépenses liées au kispoum étaient intégrées au même ensemble documentaire et comptable que celles destinées au repas du roi, proprement dit. D'autres dépenses occasionnelles peuvent être mentionnées dans les récapitulatifs, à côté de celles pour le kispoum, mais de façon très rare, comme des compléments de dernière minute. C'est dans ce contexte qu'apparaissent, de manière exceptionnelle, quelques noms propres de fonctionnaires, comme Charumnou Matichou, responsable du centre d'engraissement des ovins et des bovins, et l'intendant Chatamoum Moukanichoum. La réception de denrées par ces fonctionnaires est notée au moyen du terme « choutia », le seul autre terme administratif qui apparaît très rarement aux côtés de Nitroagoub Lougal et Chounougin dans les récapitulatifs. Alors, comme je l'ai proposé dans mon étude sur la gestion du grain à Marie, l'emploi de choutia avec la variante « choutié » semble caractéristique des pratiques d'écriture des femmes scribes officiant dans les cuisines et dont les mains ont été reconstituées par Nele Ziegler. Ce terme sert notamment à consigner les réceptions de céréales par le fonctionnaire Iloukan, qui supervisait les intendantes des cuisines, ainsi que les réceptions de mets confectionnées par ces intendantes au profit d'autres fonctionnaires, comme vous pouvez voir par exemple dans ce texte où on retrouve aussi le fonctionnaire Charumnour Matichou. Quatrièmement enfin, les totaux consignant les petits billets sont repris dans les récapitulatifs, parfois après correction, lorsque les sommes indiquées ne correspondent pas exactement à l'addition des entrées. Chaque récapitulatif se clôt par un total général. Celui-ci s'ouvre par une importante quantité d'orge brute ou perlée, obtenue par l'addition de toutes les quantités de produits regroupés sous la catégorie pain, ninda, dans les totaux des petits billets. Les scribes semblent avoir appliqué une équivalence simple, selon laquelle un volume d'orge perlée permet de produire approximativement un volume équivalent de pain, de ninda. Viennent ensuite les totaux des autres denrées, telles que la boisson, la panoum, l'huile de sésame, le miel ou encore le sésame. Les récapitulatifs se terminent généralement, comme l'on l'a vu, par la formule administrative « repas du roi », « dépenses pour le ou les mois X », sans mention d'individu responsable de ces dépenses. Alors, suite à ces observations, nous pouvons essayer de comprendre la finalité de cette comptabilité qui est l'objet de ma troisième et dernière partie. Les travaux que nous menons avec Ilya Arkhipov montrent que le système comptable du palais de Marie n'est pas un ensemble en fait cohérent et homogène dont il s'agirait de dégager une fonction unique et globale. Malgré l'existence de traits communs entre documentations, tels que le format, le vocabulaire administratif employé, l'existence de petits billets enregistrant des opérations quotidiennes, repris dans de grands récapitulatifs, les pratiques comptables du palais de Marie ne relevaient pas d'un modèle normalisé unique et dépendaient étroitement des catégories de produits comptabilisés, céréales, huile de sésame, métal, etc., et des personnes bien sûr impliquées dans cette gestion. Alors comment dès lors interpréter la fonction de la comptabilité des repas du roi, qui se caractérise par l'absence quasi totale de noms propres et de terminologie administrative? Alors, une piste d'interprétation réside sans doute dans les grands totaux figurant à la fin des récapitulatifs où, comme nous l'avons vu, les quantités de denrées désignées par Ninda sont converties en volume équivalent de grains, orge brut ou orge perlé, nécessaires à leur préparation. Or, l'approvisionnement en grains et en autres produits destinés à la table du roi, à l'exception de la viande, relevait de la responsabilité d'Iloukan, le fonctionnaire qui supervisait les intendants des cuisines. Toutes ces réceptions de grains, qu'elles proviennent de contribuables acquittant leurs taxes, de marchands ou encore des aires sur les rives de l'Euphrate, où était rassemblée la récolte des terres du palais, faisaient l'objet de petits billets quotidiens. Datés, ces documents consignaient avec précision les acteurs impliqués ainsi que les modalités de chaque opération. De grands récapitulatifs reprenant le contenu de ces billets de réception servait à la fois d'outil de calcul des volumes de grains reçus, enregistrés sous le terme administratif Namrartum, et non pas Choutia, cette fois-là, et de véritables catalogues permettant à l'intendant de retrouver avec précision les pièces justificatives, scellées nécessaires à la vérification du solde comptable. Ce solde comptable, désigné par le terme Bachitum, ne correspondait pas à un inventaire des stocks disponibles, mais au résultat de la différence calculée entre les recettes et les dépenses. Présenté par Iloukan à l'administration royale lors des opérations d'apurement des comptes, qui intervenaient approximativement tous les 6 mois, il avait pour fonction de rendre compte de son activité, justement, et de justifier sa bonne gestion des ressources céréalières du palais. La responsabilité d'Iloukan transparaît d'ailleurs dans la présence systématique de son nom sur l'ensemble de cette documentation de réception de grains, qu'il s'agisse de petits billets, des récapitulatifs ou des états de solde comptable. Or, l'établissement du solde comptable supposait, bien sûr, par définition, non seulement le calcul des recettes, mais aussi celui des dépenses. C'est précisément cette fonction que remplissaient les récapitulatifs des repas du roi, même si ceux-ci ne mentionnent jamais explicitement le nom d'Iloukan, et nous verrons pourquoi plus loin. Ce court document de synthèse, recensant les denrées destinées à la table du roi sur plusieurs mois, établit néanmoins un lien explicite entre ces dépenses et ce fonctionnaire. En résumé, deux documentations comptables fonctionnaient parallèlement, chacune composée de petits billets et de grands récapitulatifs. Bien qu'elles répondissent à des logiques et à des temporalités différentes, elles concouraient à un même objectif, l'établissement du solde comptable. D'un côté, la documentation relative aux réceptions de céréales par Iloukan, et à travers lui par les cuisines du palais, enregistrait avec précision non seulement les quantités reçues, mais aussi les informations qualitatives essentielles, telles que l'origine des denrées et l'identité des personnes impliquées, afin de déterminer les responsabilités administratives et fiscales. Les petits billets scellés constituent ainsi des pièces justificatives susceptibles d'être produites lors de l'apurement des comptes, tandis que les récapitulatifs facilitaient à la fois le repérage et le calcul du volume total des réceptions sur une période donnée. Cette documentation relevait donc d'une comptabilité, on pourrait dire, ouverte, qui enregistrait un réseau de personnes impliquées dans l'approvisionnement du palais et la responsabilité de fonctionnaires et qui étaient soumises donc au contrôle de l'administration royale. De l'autre côté, la documentation relative aux dépenses engagées pour les repas du roi, qui concernait non seulement le grain, mais aussi d'autres produits tels que l'huile, le miel ou le sésame, avait pour fonction principale d'évaluer les quantités de céréales consommées pour la préparation des mets destinés à la table royale. Les intendantes puisant quotidiennement dans les réserves pour produire la farine et confectionner les différentes préparations, il était difficile de consigner chacune de ces opérations administratives. La solution adoptée consistait dès lors à reconstituer a posteriori le volume des céréales dépensées à partir des quantités de produits finis en appliquant une équivalence approximative selon laquelle un volume de grains correspond à un volume de pain. Dans ce cadre, il n'était pas nécessaire de consigner les noms des individus impliqués ni les transferts de denrées. Seul importer les données quantitatives et encore sous forme largement synthétique, l'objectif étant d'estimer des volumes globaux de consommation. Cette documentation relevait vraisemblablement d'une comptabilité interne au service d'Iloukan, c'est-à-dire qu'il faisait sa propre cuisine, sans mauvais jeu de mots, et se prêtait moins au contrôle de l'administration royale que celle relative aux réceptions de céréales. Cette situation pourrait expliquer à la fois le caractère parfois approximatif des calculs et les irrégularités observées dans le report des données chiffrées. Cette interprétation permet également de comprendre pourquoi les grands récapitulatifs ont tous été retrouvés dans la salle 5 du palais, à proximité immédiate des cuisines où exerçaient les intendantes placées sous l'autorité d'Iloukan, et pourquoi un des seuls termes administratifs utilisés est, comme on l'a vu, Choutia, propre aux femmes scribes de cuisine. Le lieu de conservation de ces récapitulatifs reflète ainsi leur fonction première, non pas servir d'archives destinées à la vérification administrative, mais constituer des instruments de gestion quotidienne au sein même du service chargé de l'approvisionnement et de la préparation des repas royaux. Ainsi, alors que la première documentation visait à documenter l'origine des ressources, la seconde permettait d'en estimer la consommation, les deux convergeant finalement dans le calcul du solde comptable. Alors en conclusion, cette présentation a permis de dégager quelques pistes pour l'étude approfondie de cette documentation que je poursuis actuellement dans le cadre du projet PCEHM. Et comme on a pu le constater, le corpus des repas du roi résulte de la rencontre entre des catégories historiographiques modernes et des pratiques documentaires anciennes. Son identification repose traditionnellement sur une approche relevant du bookkeeping, c'est-à-dire de l'analyse des formats textuels, des modalités de rédaction et des pratiques de conservation. Et cette documentation ne nous renseigne en fait pas directement sur ce qui était effectivement consommé à la table du roi. Elle enregistre plutôt un état des produits transformés ou semi-transformés, dont la finalité était d'évaluer les dépenses en matières premières. Si l'on adopte également une perspective relevant de l'accounting, la réalité apparaît plus complexe. Chaque document relatif au repas du roi s'inscrit dans un ensemble documentaire plus vaste et sa signification ne peut être pleinement appréhendée qu'à la lumière des relations qu'il entretient avec les autres documents relevant du même système comptable, mais également avec ceux issus d'autres systèmes de gestion, tels que les documents relatifs aux réceptions de grains ou dépenses d'huile de sésame. Or, cette signification ne répondait pas seulement à des impératifs économiques ou gestionnaires. Les travaux de la New Accounting History, développés à partir des années 90 aux États-Unis, ont montré que les pratiques comptables relèvent également de constructions sociales et politiques. Et la rédaction, l'organisation et la conservation des documents relatifs au repas du roi répondaient ainsi à des objectifs spécifiques, déterminés à la fois par des exigences bureaucratiques et par des logiques sociales propres à l'administration palatiale. C'est précisément ce dessein, cette finalité sous-jacente des pratiques comptables que mes recherches cherchent désormais à mieux cerner. C'est ce fameux « definite purpose and goal in mind ». Et je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.